Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview, une interview un petit peu particulière puisque c'est certes un guitariste que je vais faire causer dans le poste, mais c'est avant tout un podcasteur. Je suis hyper content d'avoir à côté de moi Captain Dilligaff. Voilà, au rapport, Captain Dilligaff, alias Philippe, comment est-ce que ça va bien déjà?
Ça va bien, merci. Mm-hmm. Merci de me recevoir, Pierre.
Eh bien, écoute, je suis ravi, je suis hyper content. Quand je t'ai serré la louche, quand t'es rentré ici au showroom, j'ai dit, bah, je suis déjà dans le podcast. Et c'est ça, la magie du podcast, qu'on ne connaît les gens que par leur voix, ce qui est un peu le principe du podcast, hein, parce que même si techniquement on peut diffuser n'importe quoi dans le podcast, y compris de la vidéo, 99 fois sur 100, c'est toujours de l'audio. Donc du coup, à chaque fois que je vais t'entendre parler, je vais peut-être avoir parfois l'envie d'arrêter de parler pour t'écouter.
Quoi, l'impression d'écouter le podcast, ouais. Ouais, je comprends.
Ouais. Ce qui est aussi un peu le but de l'interview, de laisser parler la personne que t'interviews.
Ça tombe bien. Ouais. Faut espérer que j'ai des choses intéressantes à dire maintenant.
Bon, alors, dis-moi, donc on va parler évidemment d'un dernier disque avant la fin du monde, puisque c'est le nom de ton podcast, mais dis-nous quel genre de guitariste tu es.
Un guitariste approximatif et feignant.
D'accord.
C'est-à-dire que...
j'aime la formule.
Au départ, la guitare, c'est pas mon instrument. Moi, j'ai appris le saxophone au conservatoire.
D'accord.
Sauf que, bah, évidemment, dès l'instant où d'abord, au conservatoire, t'apprends à jouer en place, ouais, avec des sons bien joufflus, bien ronds. Et donc bah, tu te rends rapidement compte que tu ne seras pas saxophoniste ni de jazz ni de rock.
D'accord. Et pourtant, c'est un bel instrument, le saxo, non ?
C'est un très bel instrument. Ouais. Ça fait partie... Bah, tu sais, on dit souvent que la guitare, c'est surtout quand on est ado, c'est un instrument pour attraper les filles.
Bah, bien sûr.
Le saxophone aussi. C'est vraiment...
D'accord, ça marche, ouais.
Tu peux accrocher un saxophone autour du cou d'un type qui ressemble à rien, et d'un seul coup... C'est vraiment un super accessoire.
C'est bon à savoir. Okay.
Donc, toujours est-il que moi, ce que je voulais, c'est chanter, faire du rock avec les copains, etc. Ouais. Étant donné que j'avais de bonnes notions de solfège, je me suis dit, bah, la guitare, je vais me débrouiller, je vais apprendre tout seul.
Ouais.
Grave erreur, ouais. puisque ça demande du travail, les positions des mains ne sont pas naturelles, ça fait mal aux doigts, enfin, etc. etc. Et puis, jusqu'au moment où, vers 14-15 ans, tu rencontres un copain qui... a des notions de guitare et commence à t'apprendre des trucs, puis tu joues avec lui.
Ouais.
Et puis là, tu te rends compte qu'en fait, tu n'avais pas besoin du solfège, qu'avec un jeu de position, tu peux t'accompagner pour chanter et c'est largement suffisant. Donc, je ne suis pas un gros bosseur du tout. Je n'ai pas de don particulier pour ça. Mais du coup, je suis tombé amoureux de l'instrument. Et aujourd'hui, je suis un guitariste qui bricole de la pentatonique quand il s'agit de faire un genre de bout de solo.
Ouais.
Et sinon, c'est juste suffisant de m'accompagner quand je chante.
D'accord. Et quels sont les musiciens, guitaristes ou pas, qui sont au panthéon de ce que tu écoutes?
Alors, au panthéon de ce que j'écoute, ouais, ou qui sont les plus grands guitaristes pour moi? Parce que
plus grands guitaristes pour toi? Enfin, je réfléchis à ce que tu viens de me dire, là. Bah, les deux, mon colonel. Bah, mon capitaine,
parce
pardon.
Parce que vu que j'aime beaucoup les songwriters...
Ouais.
La plupart du temps, les guitaristes que j'écoute le plus sont des guitaristes qui s'accompagnent, qui ne sont pas forcément des gens qui font des prouesses.
Ouais. Mmh.
Le premier de tous, c'est Hank Williams.
Mmh.
Et puis après, tu peux aller vers la country et le folk. C'est vraiment là que sont tous les types que j'adore, que j'essaye de copier. John Prine.
John Prine, je ne connais même pas. T'as pas fait d'émission dessus encore?
Non, pas encore. J'ai lu un bouquin il y a pas longtemps, mais il était pas bien. Faut que j'en trouve un autre.
D'accord. Okay.
Et sinon, dans les guitaristes, on va dire électriques, ceux qui font des solos, etc. J'ai baigné dans Clapton vers 14-15 ans parce qu'un copain m'a fait découvrir le live Just One Night qui m'a vraiment marqué. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a ouvert des portes vers Gigi Kale, ça m'a ouvert des portes vers Robert Johnson, bien évidemment.
Ouais.
De Robert Johnson, j'ai remonté le fil.
D'accord.
Et c'est en arrivant sur Stevie Ray Vaughan que je me suis dit, mais pourquoi je connais ce son-là? Pourquoi je connais cette manière de jouer? C'est incroyable. Que j'ai découvert que c'était lui sur l'album de Bowie, Let's Dance, que j'écoutais depuis 13 ans.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Voilà. Donc tu vois, et puis à un moment, tu boucles la boucle. Donc voilà, dans les guitaristes que j'apprécie, je suis un fou de blues.
Okay.
Donc j'en écoute aussi énormément. Voilà. C'est... Mais par contre, tout ce qui va, on va dire, un peu trop vite, c'est-à-dire j'étais déjà, moi, un jeune vieux ou un vieux jeune,
ouais.
Tout ce qui est Metallica, tout ce qui est metal, thrash metal, speed metal, etc. Ça me laisse ça me repousse pas, mais ça me parle pas.
Donc on n'est pas prêt de voir un épisode spécial Satriani, Vai, Malmsteen, tout ça ?
Non, pourtant je sais qu'il y a plein d'histoires qui sont absolument passionnantes, par exemple autour de Pantera,
ouais.
Mais je ne saurais pas forcément choisir les bons morceaux, les mettre au bon endroit, parce que c'est ça aussi, c'est pas seulement raconter une histoire. Donc a priori, c'est pas au programme. Maintenant, j'ai eu des
acouphènes. Tout est négociable.
J'ai eu des acouphènes pendant 3 jours quand j'ai vu Motorhead en concert. Donc,
D'accord.
Et c'était pas inintéressant. Et Lemmy est un type absolument incroyable. Mais Motorhead, si on parle en vinyle, je peux pas écouter plus d'une face à la fois.
D'accord. C'est l'unité de mesure. Pas c'est plus ça. D'une face par mois, docteur. Sinon, c'est ça. Drôle, ouais. Quoi. Ouais. Et alors, à quel moment tu t'es dit, tiens, démarrer un podcast, ça serait une bonne idée c'est parti d'où ?
Alors, c'est quand on raconte l'histoire a posteriori...
Tu la réécris à chaque fois ?
Voilà, on peut la réécrire et puis dire, oui, un jour, je me suis dit... En fait, c'est pas vrai, ça a été que une suite...
Tu peux me donner plusieurs histoires.
Une succession de tâtonnements. Ouais. J'ai eu pendant un temps un blog, quand ça voulait dire quelque chose, où j'écrivais des articles... avec énormément de liberté, c'est-à-dire je pouvais parler d'un livre, d'un disque ou d'un film ou d'un billet d'humeur, c'était formidable.
Ouais.
Et puis à un moment ça s'est arrêté, j'ai fermé tout, j'ai même tout supprimé. Et plusieurs fois, ça me trottait dans la tête de reprendre un peu, mais je trouvais pas le format écrit n'avait plus beaucoup de sens sur Internet. Et puis je me suis mis à écouter des podcasts et j'ai eu un projet qui a été avorté de peut-être devenir disquaire d'occasion de vinyle. Puis bon, j'ai fait mon business plan, je me suis rendu compte que c'était pas viable.
C'était avant le retour en grâce en mode des vinyles.
C'était au moment où ça commençait un peu à redémarrer.
D'accord.
Et je me suis rendu compte que c'était au plat. Je me suis rendu compte que c'était pas viable, surtout. À mon âge.
D'accord.
Parce que quand tu fais ça à 25-30 ans et que tu n'as qu'un enfant éventuellement, tu vois. Mais voilà, quand tu as plus de 50 ans et que tu as une famille à nourrir, il vaut mieux retourner au salariat. Donc, c'est là que je me suis dit, tiens, avant d'aller sur ce projet, commence déjà à faire un podcast. Si ça se trouve, ça pourrait te faire une espèce d'audience captive. Et puis dans le pire des cas, tu pourras sponsoriser ton propre magasin avec ton podcast.
Ouais. Donc, parce que tout le monde sait que les podcasteurs roulent sur l'or et que c'est le business model rêvé, quoi. kind of.
Enfin, en tout cas, ils dépendent. Les gens qui s'intéressent à la musique et qui écoutent des podcasts de musique dépensent de l'argent pour voir de la musique live, pour acheter des disques, pour etc. Donc bon, éventuellement, surtout, c'est une façon de te faire connaître. Donc, l'idée de disquaire a été complètement avortée. Le podcast est resté. Et même quand tu me dis d'où t'es venue l'idée du podcast, au début, j'ai un peu tâtonné. Si on écoute l'épisode 1, 2, 3, on se rend compte qu'il y en a un qui fait 45 minutes, un qui est enregistré à l'arrache qui fait 25 minutes, et puis un qui est beaucoup plus construit et qui fait 30 minutes. Bah, je cherchais un petit peu le format. J'y suis vraiment allé comme ça, en tâtonnant. Et puis j'ai trouvé mon rythme. En parlant, la première règle c'était de parler de quelque chose que j'aime.
Ouais.
Pas de parler d'un artiste pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple un auditeur, ou parce que c'est à la mode, pas rebondir sur la mort de quelqu'un. Tiens, je vais faire un épisode sur Jeff Beck parce qu'il a cassé sa pipe. Je sais que ça peut être très 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 payant,
ouais.
Mais bon, au final, vu le format que j'ai choisi, c'est écrire un épisode sur quand on maîtrise pas très bien le sujet. Sur Jeff Beck en 3 jours, c'est pas possible.
Julien Bitoun
peut le faire en improvisant parce qu'il maîtrise son sujet.
Je suis sûr qu'il a dû googler un peu, il a dû réviser 2-3 dates quand même.
Mais bon, moi je sais que je saurais pas le faire. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que l'épisode sur ça va même beaucoup plus loin. L'épisode sur Elvis, j'avais fini de l'écrire quand le film est sorti,
ouais.
Mais je l'ai sorti 4 mois plus tard.
D'accord, ok.
Parce que dans la chronologie, c'était logique, dans ma chronologie.
Et t'en as pensé plein de choses pas terribles d'ailleurs du film, tu ne conseilles pas à toi.
Moi, j'ai vu que la bande-annonce, j'ai récupéré les codes canal d'un copain en ce moment, il passe, pour le voir, j'ai pas encore trouvé le courage de le faire.
Ok.
Non mais...
Moi, je ne l'ai pas vu non plus.
Non mais c'est un biopic, donc ça aura de toute façon tous les défauts du biopic.
Ouais.
ça de base. Mmh. C'est-à-dire que on va trouver un arc narratif bidon pour grandeur, décadence, etc. Ah, ouais. Et on va s'arrêter que là-dessus, alors qu'il y a probablement plein d'autres choses intéressantes à dire. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est quand c'est réalisé par un réalisateur dont ce que tu as pu voir, tu n'as pas aimé.
Ouais, il y a des chances que ça marche pas.
Plein de couleurs, plein de feux d'artifice. Ça, moi, j'ai dû voir deux films de Baz Luhrmann. J'ai l'impression de voir un vidéoclip qui dure 2h30.
Donc, d'accord.
C'est pas... Même cinématographiquement, ça ne m'intéresse pas. Quoi.
Tu disais que tu écoutais des podcasts avant de démarrer le tien. Tu écoutais quoi?
Alors, on fera peut-être d'ailleurs s'accorder sur la définition de podcast, parce qu'il y a un moment où on parlait de podcast vidéo.
Ah bah non, attends, moi je suis un puriste du podcast. Le podcast, c'est même les iPods avec des disques durs à l'intérieur. C'était ça le podcast. T'écoutais ça quand tu voulais, c'est ça le podcast.
Alors en fait, ça a commencé dans le cadre de mon travail,
ouais.
Où j'ai été embauché par une boîte dont le siège était à Lyon alors que je vis en région parisienne.
Okay.
Donc j'allais à Lyon une fois par semaine, en voiture.
D'accord, donc pas mal de temps d'antenne.
Voilà, ouais. Donc t'as une super solution qui sont les audiobooks. Ça, c'est formidable.
Ouais.
Vraiment, j'ai écouté des livres, j'ai écouté des classiques que j'avais pas pris le temps de lire,
ouais.
Genre Les Misérables. Tu te rends pas compte, c'est 52 heures d'écoute.
Ça en fait des allers-retours par Lyon.
Et puis, de temps en temps, quand tu veux faire une pause dans La Belle Langue de Victor Hugo, tu t'écoutes des podcasts. Et là, j'écoutais vraiment de tout. Au début, j'ai écouté un peu comme un idiot, on va dire, la radio en différé.
Ouais, parce que c'est souvent ça qu'on dans la tête des gens, le podcast, c'est du média de catch-up, pour utiliser du bon français. Ouais,
ouais. Et ensuite, je me suis mis à écouter, en fait, surtout des gens qui étaient en rapport avec la guitare. Et ça va être très présent, le fait que j'écoute des médias anglophones aussi.
Ouais.
Je t'ai parlé de John Prine. C'est une institution aux États-Unis, il n'y a pas grand monde qui le connaissent en France.
Ouais.
Quand tu veux écouter des choses sur la country, le folk rock, etc., tu as énormément de podcasts et d'interviews hyper intéressantes que tu peux écouter en anglais, qui sont des podcasts américains.
D'accord.
Ou anglais.
Et qui parlent que de country
Qui interviewent des artistes. Il y en a un qui est formidable, vraiment, je te le conseille.
Ah bah oui, j'écoute.
Qui s'appelle The Songwriter Craft. Comment on dit atelier ?
Workshop ?
Workshop, The Songwriter Workshop.
D'accord.
Si tu veux, je te le filerai. Le type, c'est lui-même un singer-songwriter qui est sur la route toute l'année. Aux États-Unis, tu peux vivre de ça et jouer dans des salles de 50, 60 personnes tous les soirs en changeant de patelin. Rien qu'au Texas, il y en a un dans tous les villages. Hein.
Ouais.
Et donc, il croise d'autres musiciens, connus ou moins connus. Et les gars parlent de la route, parlent de comment on compose une chanson, d'où on vient pour commencer une chanson, par où on commence, par qui on a commencé par copier, etc., etc. Et ils parlent aussi de la vie des musiciens au quotidien, qui est quelque chose que moi je trouve aussi absolument passionnant, puisque c'est comme tout, hein, tu vis aussi ça un peu par procuration. Et donc, j'écoute aussi pas mal de podcasts.
Donc ça nous en fait un. Tu nous en as donné un là jusqu'à présent. Hein.
J'essaye de rester dans la musique. Il y en a beaucoup.
Alors, mais tous ceux que t'écoutais. Hein,
alors, j'ai découvert un podcast assez incroyable qui est des enregistrements de procès. Donc ça peut aller de choses. Alors tous les noms sont bipés. Et ça peut aller de choses. J'ai plus le nom en tête.
Toujours en anglais ou c'est des
trucs... Non, ça c'est en français.
D'accord.
Ça peut être des choses assez glauques, comme des histoires de viol en famille, etc. Comme des histoires d'arnaque aux plaques d'immatriculation dans les garages, comme des histoires de violence en sortie de boîte de nuit.
Et ça c'est diffusé en podcast.
Ça c'est diffusé en podcast.
Ça alors.
Ouais. Donc un coup ça se passe à Bayonne, un coup ça se passe à Nouméa. C'est absolument passionnant.
C'est dingue ça. Alors, et Dieu sait si moi je suis un pro. Un pro du podcast et au combien ça permet de traiter des sujets de niche, puisque quel que soit le sujet que tu traites sur un podcast, il y a des chances que ça trouve son public. Ce qui ne veut pas dire que ça va te permettre de te faire vivre, hein, on pourra
ça,
en parler.
Clair, ouais.
Mais si tu parles de, je sais pas quoi, de course à pied, de pêche à la ligne, ou j'en sais rien, ou de guitare, de musique, ou d'histoire de la musique, ça peut potentiellement trouver son public. Mais là, le process, ça, je ne savais pas ça.
C'est,
okay.
c'est,
Intéressant. Un autre plutôt musique, plutôt guitare
Dès l'instant où on parle de musique et de guitare, je t'avoue que je passe pas mal de temps sur la vidéo.
D'accord.
Sur la vidéo, là, je vois que tu as au mur le Guitar Cookbook de c'est Romain.
Romain Moreau.
Voilà, un type que j'ai beaucoup regardé à un moment donné, voilà, moins ces derniers temps. D'ailleurs, je ne sais pas s'il produit encore. Je n'ai pas reçu d'alarme depuis un moment.
Qu'il plutôt produit toujours. Maintenant, il a lancé sa boîte d'édition, il fait des bouquins, etc. Mais ouais, je crois qu'il fait toujours de la vidéo. Ouais.
Mais voilà, un type que j'ai beaucoup écouté. Il y a évidemment Julien Bitoun que j'écoute.
Guitare Obsession.
Très
un guitare obsédé, alors, donc ouais. Normal.
Oui, ça. Ouais. Il y a une certaine logique. Voilà. Sinon, non, au niveau musique, je ne sais pas, il faudrait que je regarde dans. Là, comme ça, évidemment, parce qu'au moment où on te pose
toujours,
la question.
C'est toujours ceux qui dépassent de l'eau, tu vois.
Et puis là, je viens d'écouter coup sur coup deux livres audio, donc peu de podcasts.
Alors, c'est marrant parce que moi, tu vois, Dieu sait si des podcasts, j'en écoute depuis que j'ai découvert ça. Donc, j'ai acheté mon premier iPod, c'était Noël 2004. Donc, quelques mois après, j'ai découvert le podcast. Donc, j'en ai écouté beaucoup à l'époque. De toute façon, il n'y avait que des podcasts en anglais, machin. Ouais. Mais les audiobooks, j'ai essayé une fois ou deux, mais jamais accroché.
Écoute, il y a vraiment.
Et je ne sais pas pourquoi, parce que je devrais aimer en plus.
Il y a une phrase qui dit que quand on parle d'un film et que c'est un chef-d'œuvre, en fait, c'est un miracle. Parce que pour qu'un film soit un chef-d'œuvre, il faut que tu aies une histoire en béton.
Il
faut qu'elle soit bien scriptée.
Il
faut qu'il y ait un réalisateur. Il faut qu'il y ait un directeur de la photo. Il faut qu'il y ait de musique. Il faut qu'il y ait un casting. Il faut que la mayonnaise prenne au moment du tournage et après il y a le montage. Il y a tellement de conditions que quand tu tombes sur un chef-d'œuvre, c'est purement un miracle.
Que tu veux dire.
Pour un livre audio, c'est pareil.
Okay.
Tu peux avoir un livre absolument génial que tu aurais dévoré si tu l'avais lu. S'il est lu par une voix qui ne te convient pas ou par quelqu'un qui surjoue, ou par quelqu'un qui est trop monocorde, ça va te casser le truc. Donc il faut qu'il y ait vraiment l'alchimie entre ton goût, le bouquin et le gars qui va le lire.
D'accord. Oui, mais peut-être aussi parce que j'ai pas assez essayé, quoi. Parce que j'avais eu un moment un abonnement Audible, peut-être 3 mois gratuit, machin, là. Et je sais pas. En tout cas, j'ai jamais accroché. Et pourtant, Dieu sait, si ma playlist de podcast, elle est toujours pleine, j'en écoute sans arrêt. Quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de courir et autres, tu vois, mais les livres audio. Et Dieu sait, si j'en entends régulièrement parler, je me dis, putain, mais c'est vrai, j'adorerais pouvoir relire ou réécouter des choses comme ça, et j'y suis pas. Tu m'as redonné envie, là, maintenant.
Je vais te donner un exemple qui n'est pas très populaire, mais Céline.
Ouais.
Moi, j'ai fait Lettres modernes. On m'a dit, Céline, voilà le gars qui a révolutionné le roman, qui a fait rentrer le roman dans la modernité, etc.
Ouais.
etc. Il faut lire Céline, bien sûr, c'est une ordure. Mais il faut lire Céline, etc.
Ouais.
Voyage au bout de la nuit. J'ai essayé de lire trois fois.
C'est le seul que j'ai lu.
J'ai essayé de le lire trois fois. Le truc m'est tombé des mains. J'ai essayé, au bout de 70-100 pages, je veux dire, si à un moment, t'es pas rentré dedans. Quoi. Mais vraiment, ça m'est tombé des mains. Je rentrais pas dedans. C'était opaque pour moi. Abonnement Audible. Au début, chez Audible, tu pouvais acheter un livre avec un jeton. Et s'il te plaisait pas, une fois que t'en avais écouté une heure, par exemple, le lecteur allait pas, tu pouvais l'échanger.
D'accord.
Dans les 3 ou 4 jours qui suivaient.
D'accord.
Ils ne le font plus.
Ah oui. Donc tu pouvais goûter comme ça le livre.
Je me suis dit, tiens, allez, on va essayer. J'ai pris Mort à crédit et c'est lu par Podalydès.
D'accord. Ah oui, ok, l'acteur, le comédien. Ouais.
Extraordinaire. Je suis rentré dans le bouquin, mais comme dans du beurre. C'est extraordinaire. Et depuis, j'ai écouté bien sûr Le Voyage. Et puis là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté D'un chat ou l'autre, que je n'ai pas encore commencé.
D'accord.
Donc, sinon, je ne rentrais pas dans le livre. Quoi. Donc, si.
Donc,
livre
promis,
audio.
Promis, il faut que je réessaye alors.
Vaut le coup.
C'est étonnant parce que j'en entends régulièrement parler. J'en fais la promesse ici, je referai un essai. Après, ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de temps d'oreille disponible. Enfin, du coup, j'ai déjà beaucoup. J'imagine comme toi un backlog de choses à écouter et puis qui diminue jamais parce que ça ne fait que s'ajouter. Revenons à un dernier disque avant la fin du monde. Comment est-ce que tu choisis les sujets, les artistes que tu traites?
Alors, au début, je m'étais fixé des règles. D'abord, parler de quelque chose que
j'aime. Maintenant, il n'y a plus de règles.
Parler de quelque chose que j'aime. Essayer de parler de pas parler des gens dont tout le monde parle. Tu vois.
Ouais.
Typiquement.
Pas de marronnier. Pas de marronnier chez toi.
L'idée, c'était d'éviter soigneusement Clapton. Par exemple, je suis un fan hardcore de Springsteen. J'en ai jamais parlé.
Ouais. Ça viendra.
Ça viendra sûrement, ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis passé à côté. J'avais commencé à bosser sur un épisode autour de la chanson Because the Night, puisque ça croise Patti Smith. L'écriture de la chanson a une histoire. Je m'étais dit, tiens, il y a peut-être... ça n'a pas abouti. Le brouillon est quelque part, et ça reviendra sûrement. Il y a des groupes dont je refuse de parler parce qu'il y a trop de fans hardcore casse-couilles.
D'accord.
Donc, il n'y aura pas d'épisode sur Led Zepp.
Voilà, d'accord.
Parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui vont me tomber dessus. Non, c'est pas comme ça. Non, ça, c'est pas la vraie histoire. Non, mais on peut pas dire ça comme ça, etc. Donc voilà, j'irai pas. C'est pas la peine. Tu vas pas.
C'est dommage parce que ça nous prive de ton angle, de ta lecture.
Mais il y a plein de choses intéressantes à dire. Alors, il y a aussi le fait que il y a tellement de littérature sur le sujet.
Ouais, c'est un gros morceau, c'est vrai.
Tu vois, qu'est-ce qui a pas déjà été écrit? Donc bref, au début, l'idée, c'était quelque chose que j'aime, quelque chose de pas forcément connu, faire découvrir des choses, ou alors parce que je savais qu'il y avait vraiment des histoires intéressantes attachées, ou alors plein de fausses idées. Typiquement, l'épisode que j'avais fait sur la chanson... j'avais pris la chanson « Nothing Compares to You » de Sinead O'Connor, mais aussi pour raconter l'histoire de Sinead O'Connor, qui raconte plein de choses sur le music business, etc. Donc... voilà, il y avait suffisamment de matière, ça permettait de parler de Prince au passage. Même des gens qui n'étaient pas au courant que c'est une chanson de Prince au départ. Donc voilà, il y avait suffisamment de matière pour y aller, même si la chanson est connue et Sinead O'Connor, ça dit quelque chose à tout le monde. Je me dis aussi qu'il y a des gens, on va dire, beaucoup plus jeunes que moi qui peuvent tomber sur le podcast. Moi, l'avènement de Sinead O'Connor, c'est entre eux, 86 et 95. Donc moi, j'avais entre 15 et 25 ans, je m'en souviens très bien, mais tous les gens qui ont 15 ans de moins que moi ne savent pas forcément de quoi je parle. Donc voilà, donc c'est comme ça que je choisissais mes sujets.
Ça me fait penser, excuse-moi de t'interrompre, mais j'écoutais, c'est dans un podcast que j'écoute régulièrement qui s'appelle Dans le Tempo, là, de Salman, où il y a notre ami commun, donc Julien Bitoun, qui est passé. Et il expliquait, et c'est ça qui me fait penser à ça, c'est que lui, quand il raconte des histoires dans le podcast, il dit « Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour aller écouter La Grande Armada. Par contre, j'aime bien mettre des spotlights, établir des connexions, ce pourquoi il est très fort. » Donc, tu as un peu le même angle que Julien à ce niveau-là.
Oui, c'est-à-dire, alors, si c'est pour raconter éternellement la même histoire, de la même façon, déjà, qui l'ont peut-être fait mieux que moi, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, l'idée, c'est aussi d'essayer d'apporter quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc, quelque chose dont on ne parle plus beaucoup ou quelque chose sur lequel on a des
idées. On est mis sous le tapis discrètement, comme ça.
C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Vers la fin de la première saison, j'ai eu un accrochage avec... des lecteurs très courageux, tu sais, ceux qui t'envoient des messages sans forcément les signer.
Ouais, Jean-Michel 822.
C'est ça, voilà. Pour me dire qu'il y avait quand même d'autres choses à dire, que Clapton a fait des déclarations racistes, de parler de la transsexualité avec Lou Reed, etc. Il y avait apparemment des gens qui étaient défrisés par ce type de sujet, alors que c'est parfois au cœur de l'œuvre. C'est important de le souligner. Et j'ai assisté à un accrochage sur Twitter autour de Sister Rosetta Tharpe.
D'accord.
Et il y avait...
Après que tu en aies parlé ou sur...
Non, avant que j'en ai parlé, justement. Et c'était pas au programme. Ouais. Pour le coup, je vais dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Okay. J'ai écrit un épisode en une semaine.
Ok.
Et j'ai complètement déprogrammé ce qui était prévu pour coller celui-ci. Parce que tellement ça m'a chauffé. Il y a deux personnes que je ne nommerai pas. Qui sont dans le business de la presse rock, et qui s'en sont pris à une historienne, qui est une historienne féministe, qui avait fait un thread sur Twitter pour recaser Sister Rosetta Tharpe dans l'histoire du féminisme, dans l'histoire du racisme, etc. Et en disant que c'est quelqu'un dont on parle pas beaucoup. Et alors eux là, les deux spécialistes, se sont mis à la railler sur Twitter et évidemment à drainer derrière eux tous les followers et les lecteurs de leur canard pour dire « Non mais, quand on ne sait pas de quoi on parle, tu ne vas pas nous faire la leçon du rock, etc. Ouais. Voilà. Et il y avait, alors qu'elle avait pris l'angle du féminisme, il y avait énormément de machisme et de misogynie dans les messages qui étaient... Donc, nous détenons la vérité, tu dis n'importe quoi, elle est très connue, alors que Sister Rosetta Tharpe, elle a été remise au goût du jour à un moment donné, mais en attendant, il y a encore plein de gens qui ignorent qui c'est, et c'est important de raconter son histoire.
Ouais, ouais.
Donc, du coup, je me suis jeté sur le sujet, et je me suis dit, bah, tiens, puisqu'on est aux prémices de l'histoire du rock, est-ce qu'il n'y a pas un angle, un éclairage à chaque fois sur cette progression de l'histoire du rock, puisqu'on ne parle pas encore de rock'n'roll, on est vraiment aux prémices, et est-ce qu'il n'y a pas des choses vraiment intéressantes et des angles vraiment intéressants à souligner sur le racisme, sur la façon dont s'est monté le music business, sur la façon dont les artistes ont été exploités, etc. etc. Et donc, de fil en aiguille, de là, j'ai commencé à remonter l'histoire. Il y a des gens que j'ai évités soigneusement, Phil Spector par exemple, dont je vais parler forcément à certains moments parce qu'on le croise dans la route de certains artistes, mais je ne ferai pas un épisode sur Phil Spector. J'ai été par exemple scandalisé il y a quelques mois que Rock'n'Folk fasse sa une sur Jerry Lee Lewis.
D'accord.
C'est-à-dire, le mec est soupçonné d'avoir tué deux de ses femmes et d'un racisme, on va dire, flamboyant, et on le met en une. Je ne dis pas que ce n'est pas quelqu'un qui a eu un moment sa marque sur l'histoire du rock'n'roll. Ce serait idiot de le nier. Enfin bon, quand même, je
moi,
pense...
Moi, trop en faut, quoi.
Oui, puis il y a des gens vachement plus intéressants dont on peut parler si on veut parler de l'invention du piano rock, à commencer par Little Richard ou Fats Domino, qui n'a jamais essayé de tuer son bassiste.
Mais tu vois, je réfléchissais par rapport à Sister Rosetta Tharpe, là. Moi, et Dieu sait si je suis loin d'avoir une culture encyclopédique du rock, mais j'ai 55 balais, j'écoute toujours beaucoup de musique, et j'ai commencé mon éducation musicale grâce à mon frère qui me faisait écouter des vieux trucs, les Crosby, Stills, Nash & Young, pas mal de folk, de rock, etc. Mais honnêtement, Sister Rosetta Tharpe, je pense que ça ne doit pas dater de très très longtemps, effectivement, que j'ai entendu son nom. Alors, il y a cette fameuse vidéo où on la voit sur scène avec la robe blanche, avec la SG, là, où Les Paul, je ne sais plus jamais dans quel sens il faut le dire, mais en tout cas avec les trois micros et tout ça. Mais ça date de quelques années, pas beaucoup plus que ça, en tout cas.
Je pense
qu'elle
a été réhabilitée il y a 5 à 8 ans. Donc, je veux dire, c'est vraiment tout neuf. Et donc, l'histoire mérite encore d'être racontée, soulignée, et elle a quand même été ignorée pendant de très, très, très longues décennies. Donc, voilà.
Et je recommande l'écoute de cet épisode, effectivement, qui est hyper intéressant, parce qu'on apprend, on apprend plein de choses. Avant que j'oublie, je voudrais qu'on jette un œil sur le site web, parce que je t'ai découvert, alors j'ai essayé de me rappeler, mais je suis à peu près sûr que c'est via le podcast ou l'interview que tu avais faite sur Guitar Obsession, donc le podcast de JM Bitoun, dont je recommande aussi chaudement l'écoute. Et donc il y a un site web sur le podcast Un Dernier Disque Avant la Fin du Monde, voilà, et que je savais même pas en fait, et en tout cas je pensais aujourd'hui la première fois que je voulais faire jeter un œil dessus. Donc on y trouve quoi sur ton site web?
Alors, on y trouve des erreurs 404 avec des pages qui mènent nulle part que je dois corriger. Okay. De très très belles erreurs 404. Venez, vous serez pas déçus.
D'accord.
On y trouve surtout l'un des grands intérêts, c'est qu'on va y trouver ce que j'appelle les transcripts des épisodes. C'est-à-dire que tous les épisodes ont été écrits et documentés. Donc, ça veut dire que quand je dis il va y avoir il y a des liens si vous voulez voir telle photo, si vous voulez voir telle vidéo, etc. Sur quoi on va tomber là? Sur quoi on va tomber? Oh!
Ouais, ça marche. Okay. Donc là, c'est tout le texte. Et donc là, je pourrais mettre l'épisode et j'écoute, je lirai exactement ça? À la virgule près, quoi.
Parfois, pendant l'enregistrement, je prends des libertés avec une phrase.
Ouais.
Mais sinon, on va retrouver le texte. C'est vraiment scripté précisément.
D'accord.
Quand je parle d'un document en ligne qu'on peut trouver. Par exemple, dans le prochain épisode qui sort dimanche prochain sur les Platters, il y a eu énormément de tracasseries judiciaires par rapport au nom des Platters, par rapport à leurs enregistrements, etc.
Okay.
Tous ces documents sont en ligne. Donc, quand on veut savoir qui a tort, qui a raison, on peut se plonger dedans. Je vous avoue que c'est assez pénible. Mais bon, en attendant, si je cite des choses... En fait, c'est aussi quelque chose auquel je tenais dès le début du podcast, c'est toujours citer mes sources.
Ouais.
Toujours citer mes sources, parce que c'est facile de dire... Tiens, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui essayait de me raconter l'histoire des M&M's marrons chez Van Halen, en me disant « Ah, c'est David Lee Roth qui est… » Bon, tu connais sûrement l'histoire aussi bien que moi. En fait, non, l'histoire de… C'est Van Halen qui tenait absolument dans ce qu'on appelle le rider, c'est-à-dire
le document pour préparer les concerts.
Voilà, pour préparer les concerts. Donc, la salle de concert reçoit ce document et il y a un certain nombre de choses qui sont dues aux artistes et donc qui demandaient un bol de M&M's marron uniquement ou alors de M&M's sans les M&M's marron, toutes les couleurs sauf les marrons.
Ouais, en tout cas,
il y a une astuce de ce type-là
donc
qui est complètement qui ressemble à un caprice de diva et en fait, c'était pour eux l'occasion de vérifier en arrivant en un seul coup d'œil si le document avait été lu, si les trucs avaient été respectés. Et si pour ça, ça n'avait pas été fait, ça voulait dire que probablement le reste était merdique aussi. donc voilà, quelqu'un me racontait l'histoire de travers, mais c'est tout à fait normal. Il l'a peut-être entendu une fois à la radio, puis une fois d'une autre façon, et puis il l'a retranscrit selon ses souvenirs, donc ce n'est pas un souci. Moi, je tiens absolument, quand je dis quelque chose, à ce que ce soit documenté. On sait d'où ça vient, je cite mes sources. Ça me semble vraiment très, très important parce que justement, j'essaie aussi d'aller là. Parce que je prends mon temps pour raconter les histoires, d'aller là où Rock and Folk, Rolling Stone, etc. ne vont pas. Ils vont en général raconter l'éternel copier-coller de la même histoire de Bob Dylan qui s'est électrifié au festival de Newport, etc. etc. Alors que quand on creuse un peu, je fais un teasing de malade.
Ah, c'est scandaleux ça.
Il y aura un épisode sur Dylan d'ici 2 mois ou 2 mois et demi où on se rend compte qu'il y a un fond de vérité. En fait, il y a énormément de... Ça a été ripolliné, ça a été une légende qui a été montée de toutes pièces à laquelle Dylan a participé. Et que, en fait, l'histoire est beaucoup plus prosaïque que ça.
D'accord.
Et que donc l'histoire de l'électrification de Dylan, c'est ça fait partie des légendes du rock, quoi.
Mais c'est pas aussi... à Newport, tout ça, sa Stratzenburg, tout ça.
C'est pas aussi simple.
D'accord.
C'est pas aussi simple. Et il y a plein d'autres groupes électriques qui étaient déjà passés au festival de Newport sans faire de scandale.
D'accord. C'est pour le coup que c'est scandaleux parce qu'effectivement, il va falloir qu'on attende 2 mois là, ou je sais pas, pour avoir le prochain épisode. Donc voilà, on y trouve ça. Et on peut donc soutenir le podcast qui nous amène, alors potentiellement, donc ça c'est la page pour tout soutenir, et ce qui nous permet d'aboutir sur le Patreon.
Sur le Patreon,
pour mettre des sous-sous dans la popoche, donc pour la scandaleuse somme de 5 euros par mois, on peut soutenir cette œuvre qui devrait être remboursée par la Sécurité sociale tellement elle est utile et bien faite. Et franchement, je ne fais pas de flagornerie à 2 balles parce que moi, j'adore. Dès qu'il y a un épisode qui sort, je l'écoute consciencieusement. J'ai écouté le tout dernier qui est sur Wilson Pickett, que je pense que j'ai terminé d'écouter.
C'est l'avant-dernier.
C'est l'avant-dernier. Alors, j'ai pas écouté le dernier. Alors.
Le dernier, c'est Eddie Cochran.
Ah, d'accord.
C'est la première partie d'Eddie Cochran. Mais alors, il doit y avoir un problème de lien, j'ai vu tout à l'heure. T'as cliqué sur « Ah, c'est pas la bonne photo » ou alors c'est une mise en page absolument désastreuse. Voilà.
Ah d'accord, d'accord.
C'est pas grave. Mais donc c'est l'avant-dernier Wilson Pickett.
Donc t'es presque à jour en fait.
Ouais, t'es presque à jour. Et il y a Eddie Cochran, ça sort un dimanche sur deux.
D'accord, très bien.
Un dimanche sur deux, le matin à 9h.
Je sais plus si je t'avais posé la question tout à l'heure, tu mets combien de temps pour préparer une émission? C'est variable ou il y a des épisodes qui sortent comme ça?
Ça dépend... Bah, en fait, ça prend beaucoup de temps parce que parfois, j'ai pas l'angle. Ouais. J'ai juste, par exemple, j'ai l'histoire d'un enregistrement, mais ça fait pas un épisode.
Il y a 10 minutes,
ouais. Éventuellement. Et peut-être que je peux me mettre à faire des modules de 10 minutes un jour, mais il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait un angle, il faut qu'il y ait de la viande. Et donc, des fois, ça me prend du temps, le temps de ramasser de l'information. Et puis, parfois... Ça va tout seul parce que ça a déjà été hyper documenté, parce que j'ai déjà lu 3-4 bouquins dessus. C'est vraiment très très variable, mais en général c'est difficile parce que je fais ça au long cours et je suis toujours en train de bosser sur 3-4 épisodes en même temps.
Parallèle,
mais je dirais un épisode ça demande quand même au moins une semaine de boulot, une vraie semaine de boulot, et ça, hors enregistrement, mixage, etc. Le choix des morceaux, il y en a, je les ai en CD, mais il y en a, je vais pomper sur YouTube, que je transforme en MP3, et je regarde si le résultat est audible. C'est correct, donc je l'utilise. Ça, c'est vraiment variable.
Alors, tu es guitariste et non plus saxophoniste, Dieu merci. Enfin bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais on est quand même ici pour parler un peu guitare. Est-ce que quand tu as fait tes travaux de recherche sur pour ton podcast, tu es tombé sur des perles et des choses incroyables au niveau guitare? Là, dans l'avant-dernier épisode donc, que j'ai écouté, celui sur Wilson Pickett, tu parles de Steve Cropper, qui est un guitariste... pas si connu que ça, mais en tout cas qu'on a tous entendu des milliards de fois parce que ces riffs de guitare sont partout. Donc lui, est-ce qu'il y en a eu d'autres comme ça?
Alors oui, il y en a eu d'autres. Alors je vais même te dire par lequel ça a commencé. Un type dont en général personne, tout le monde connaît son œuvre,
ouais.
Et personne connaît son nom.
Ouais, vas-y, teste-moi.
Un type qui s'appelle Danny Cedrone.
J'ai jamais entendu parler. Ça n'existe pas, tu mens.
Danny Cedrone. c'est lui qui a enregistré le solo de Rock Around the Clock de Bill Haley.
Ah ouais, d'accord. Génial.
Et il est mort un mois après.
Ça alors.
En tombant dans l'escalier. La mort absolument ridicule.
Ridicule.
Et donc, il avait eu le temps d'enregistrer une poignée de solos, puisque c'était avant tout un guitariste de session. Il ne faisait pas partie des Comets, officiellement. Et d'ailleurs, Eddie Cochran collectionne les 45 tours d'origine sur lesquels on le trouve soit en tant qu'accompagnateur, soit en tant que soliste.
Génial.
Et c'est un type qui a ouvert des portes dans des proportions qu'on n'imagine pas, dans la mesure où c'est réellement la première fois qu'il y a un morceau, alors je sais, c'est du rock and roll, c'est même du rockabilly, enfin on va dire pop, qui passe sur les radios,
ouais.
Sur lequel il y a un solo de guitare qui est construit, qui est novateur, qui est rapide, c'est pour moi, c'est vraiment ça. C'est ça qui a ouvert la porte à Van Halen chez Michael Jackson, ou Slash chez Michael Jackson, par exemple. Il n'y aurait pas eu ça d'abord. C'est vraiment la première marche. Quoi. Donc voilà, Danny Cedrone, c'est un guitariste vraiment, vraiment extraordinaire, malheureusement avec une œuvre toute petite, mais personne ne connaît son nom. C'est quand même dommage.
Bah ouais, carrément. Alors, ça me fait penser, c'est un épisode qui date il y a un moment, je pense, c'est un épisode où tu parlais de Lou Reed et où tu parlais de Walk on the Wild Side avec le bassiste ou contrebassiste dont j'ai évidemment oublié le nom, mais qui avait été payé double, alors qui était payé à la session, donc du coup, l'intro de basse qui fait un truc à l'octave, il avait fait deux trucs, non pas parce que c'était musicalement intéressant, mais parce que du coup, comme ça, il touchait alors, de cachet, voilà. C'est ça, je résume. Hein, mais...
Exactement, aujourd'hui, tout le monde parle de la double ligne de basse en disant, quelle idée géniale. Mais en fait, c'était pour être payé deux fois, une fois sur une basse électrique, une fois sur une contrebasse. Et en effet, voilà, comme quoi, où ça va se cacher, ouais, ça, tout à fait. Ouais.
Excellent.
Tout à fait.
Donc d'autres, comme ça, perles guitaristiques, là, qui sont sous le manteau.
Je ne sais pas si j'en parle pas déjà dans l'épisode sur Wilson Pickett, tu vas peut-être me le confirmer, parce qu'au bout d'un moment, ça se mélange, ou si c'est dans l'épisode sur Sam Cooke, mais il y a un guitariste incroyable qui s'appelle Bobby Womack.
Alors ça me dit rien, donc ça ne va pas être dans l'épisode sur Wilson Pickett que
voilà,
t'en parles.
Qui est un type qui a apporté...
qui a eu une carrière à lui tout seul. Quoi.
Tout à fait. Des choses vraiment novatrices dans la soul,
ouais.
Parce qu'il est allé piquer tout un tas de riffs de country.
Ah d'accord, attends, si ça me dit quelque chose peut-être, ouais.
Et donc, Bobby Womack, voilà un mec qui est vraiment super intéressant. Il a fait quelques albums solo, il a fait des musiques de films, des choses qu'on entend dans les films de Tarantino de temps en temps. Et c'est vraiment un super guitariste aussi, un type détestable aussi, absolument infréquentable.
Il y a des mecs cool quand même dont tu parles, quoi, ou tu parles que de fumier, quoi.
Alors...
Excuse-moi de poser la question
si on devait faire un podcast sur les gens bien de l'histoire du rock'n'roll, il n'y aurait peut-être pas beaucoup d'épisodes. Donc, il y a un moment, il faut s'habituer à savoir qu'il y a eu un paquet d'ordures ou de gens pas très fréquentables, complètement. Hein, mais oui, il y en a un qui revient de façon très récurrente juste après Sister Rosetta Tharpe, qui s'appelle Johnny Otis.
D'accord.
Alors, les gens qui connaissent, qui sont férus de guitare, connaissent bien son fils, Shuggy Otis. Ça te dit rien ?
Alors, Johnny Otis, ça me dit quelque chose, mais pour moi, Johnny Otis, c'est un chanteur, non ?
Alors, Johnny Otis, c'est un batteur, vibraphoniste, chanteur, qui avait un orchestre et qui produisait donc The Johnny Otis Review, qui était un spectacle itinérant dans lequel il a découvert Little Esther, il a découvert Etta James. Le fameux le truc que Clapton avait repris, Willie and the Hand Jive.
Ouais, ouais, d'accord. Ouais,
Johnny Otis qui l'a écrit.
Okay.
Voilà. Et il a été producteur, il a été DJ, etc. Et ça a vraiment été un bienfaiteur des musiciens noirs pendant toute sa vie.
D'accord. Et est-ce que, à contrario, il y a des trucs sur lesquels tu tombes, tu dis ah non, mais ça c'est trop guitare. Moi, ce que je veux, c'est avant tout parler de musique, ou c'est trop guitare geek, tu vois. Ou est-ce que tu te censures pas?
Non, je simplifie des choses.
Ouais.
Pour deux raisons. La première, c'est parce que à être trop pointu, on peut aussi perdre une partie de l'audience.
Mmh. Hein.
Par exemple, sur je crois que c'est l'épisode sur les Penguins. Un groupe de doo-wop où je parle des suites d'accords doo-wop,
expliquer
un petit peu comment c'est construit. Il y aurait eu plein d'autres choses à dire, on aurait pu aller beaucoup plus finement. Il y a un moment, on n'est pas là non plus pour emmerder le monde ou faire un cours de théorie musicale.
Bah, après, c'est donc, un podcast. Hein,
oui, non, mais voilà, oui, c'est sûr. Et sur l'épisode sur Paul Simon, pour moi, c'était. Okay. Donc, pareil, je tease, hein,
C'est dans le futur,
ça sera en avril ou début mai.
Ouais.
Le jeu de Paul Simon a changé entre son début de carrière et les premiers succès. Et il est passé en Angleterre et il a appris avec Bert Jansch une façon très particulière des arpèges avec l'accordage Dag-Dag.
Ouais.
Dad-gad.
Ouais.
ça, je l'explique en mettant des exemples sonores. Et donc, la deuxième raison pour laquelle je ne m'aventure pas trop là-dedans, c'est que les exemples sonores, je suis allé les piquer sur YouTube à droite à gauche,
ouais,
parce que je suis infoutu de faire des arpèges corrects.
D'accord.
Et donc je ne peux pas illustrer moi-même.
Mmh.
Quand il s'agit juste de faire la suite d'accords pour dire, voilà, ça, c'est la suite d'accords doo-wop, je fais moi-même.
Mmh.
Sinon, je laisse faire ceux qui savent.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que je ne m'aventure pas trop dans la technique guitaristique.
Mmh. Ah, tu pourrais faire des épisodes avec des avertissements. Dire, bon, attention, là, on va parler un peu plus de guitare. Quoi. Tu vois, il faut assumer le fait d'être guitariste. Hein, c'est pas honteux.
Oui,
hein,
ouais, tout à fait. Mais après, il faut que ça s'y prête et que ça soit aussi au service de l'histoire. Tu vois.
Ouais, je comprends. Et est-ce qu'il y a des périodes que tu veux traiter ou au-delà duquel tu ne veux pas aller?
J'en sais rien encore.
D'accord.
Parce que
là, on est plutôt sur des vieux trucs, grosso modo, ou pas.
Mais oui, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on connaît l'histoire. Tout est documenté.
Ouais.
C'est facile de raconter une histoire quand elle
c'est
est fermée,
pas faux. Ouais.
Quand elle est finie.
Mmh.
Tu as des histoires qui restent encore parfois problématiques. Quand tu parles de la grande histoire, il n'y a qu'à voir comment en France, on a toujours des problèmes à parler de la guerre d'Algérie.
Mmh.
C'est confus, c'est compliqué. C'était pas des bons et des méchants, c'était plus complexe que ça, etc. Mais l'histoire est fermée. Aujourd'hui, on a quand même toutes les cartes en main pour faire un vrai travail, que voilà, il y a des gens qui étaient a priori du côté des bons, mais qui ne se sont pas forcément très bien conduits, et inversement, etc. etc. Mmh. Donc, plus on remonte dans le temps, plus l'histoire elle est fermée, plus on a toutes les cartes en main, et plus on peut mettre en perspective. Donc, c'est aussi pour ça que là, en reprenant un peu au début, je trouve qu'il y a matière aussi à raconter enfin. Alors, je ne veux pas me jeter des fleurs en disant je suis un historien. Je ne suis pas un historien. Moi, tout ce que je raconte, c'est écrit par quelqu'un d'autre.
Il y a un peu ce travail-là, quand même, si ce n'est d'historien, en tout cas d'analyse, de lecture, parce que tu te coltines pas mal de bouquins que tu cites, etc. Donc,
c'est une question d'angle. Moi, je suis pas allé déterrer des documents que personne connaissait. Je suis pas. Quand des fois je critique un peu la presse rock française, c'est parce que je me rends compte que tout ça c'était disponible dès l'instant où on se donne la peine de le lire, de le traduire, de le mettre en perspective. Donc, c'est pour ça que je dis, je fais rien d'extraordinaire. Si j'ai un talent, c'est de savoir où aller chercher l'info et éventuellement de la remettre dans l'ordre. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant de faire ce travail. Tout le monde connaît Elvis, tout le monde connaît Eddie Cochran, Gene Vincent. Tout le monde que tout le monde a déjà entendu parler du fameux The Day the Music Died, le jour où la musique est morte. Il y a eu un crash d'avion dans lequel il y avait le chanteur de la Bamba, Buddy Holly. Un artiste qui a pas fait grand chose, qui a fait un truc qui s'appelait Chantilly Lace, The Big Bopper, mais en tout cas, qui était une grande star du moment. L'avion s'est crashé, ils sont morts tous les trois. Aujourd'hui, on te présente ça comme la plupart du temps comme donc un accident d'avion qui fait que ils sont rentrés dans la légende. Enfin, c'est l'histoire de James Dean.
Ouais, ouais.
Sauf que James Dean, il aimait la vitesse, il s'est crashé tout seul. eux, s'ils sont morts dans un avion de merde qui s'est crashé au bout de 100 mètres, c'est parce que la tournée, elle était organisée par des rapias qui n'ont pas mis de thunes dedans, qui les exploitaient. Et alors là, encore une fois, spoiler là, cette fois-ci, hein, bien que je vous en lâche un petit peu, les artistes qui accompagnaient la tournée ont été obligés de finir la tournée.
D'accord, ok.
Donc c'est l'invention du capitalisme dans le music business où, en fin de compte, les artistes, c'est que des jeunes qu'on va exploiter à mort, quitte à ce qu'ils en crèvent. Ça sera à peu près la même histoire pour Eddie Cochran.
Oui, puis ce qui est quelque chose qu'on retrouve même encore un petit peu de jour, quoi. Hein, autant la musique se porte très bien, autant le music business, parfois, c'est un peu armoire. Quoi,
c'est, hein. Ouais, c'est un peu un chouïa, ouais.
Est-ce qu'il y a des perspectives, des prochains projets? Où est-ce que tu veux amener un dernier disque avant la fin du monde, avant que ça soit la fin du monde? Parce qu'on a déjà eu la fin du monde en 2020, avec l'attaque des zombies, tout ça. Ouais, là, donc, c'est toi en fait le Covid, c'est toi qui es derrière tout ça, quoi.
Ouais, enfin, je trouve que chaque année il y a quand même une nouvelle couche,
fin du monde,
une nouvelle couche. Là, on a l'Ukraine et le climat.
Mais qui aurait pu prévoir?
On se pose la question. Mais, donc, si j'ai le temps de finir, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'aux années 2000. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que... En fait, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. La première, ça dépend de ce que devient mon audience.
Ouais.
Si elle a une croissance ou pas, parce que c'est aussi ça qui te motive quand tu sais que t'es écouté et que ça avance. C'est pas tant le fait d'avoir des Patreonneurs. C'est super d'avoir des patronneurs, surtout qu'il y a un Discord, on discute, etc. Et c'est hyper enthousiasmant de discuter avec des gens qui soutiennent ton projet. Mais c'est pas tant ça, c'est le fait de... aujourd'hui, je dois avoir à peu près 250 personnes qui m'écoutent très régulièrement.
Ouais.
Et je me dis, alors soit c'est vraiment une musique de vieux cons, et les vieux cons qui sont censés s'intéresser à mes histoires, ils savent même pas... comment trouver un podcast, si c'est possible. Je sais pas.
Ça se peut.
Soit je suis pas bon pour faire connaître mon truc, soit, enfin, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je trouve que la mayonnaise a pris à moitié. On est dans un bain d'eau tiède. Donc, je suis déjà en train de réfléchir à la saison 3, dont je pense qu'elle sera soul ou qu'elle ne sera pas.
D'accord.
C'est très probable. Ce qui me permettra aussi de parler de pas mal de femmes artistes. Parce que dans le rock... au début, il y en a quelques-unes. J'en ai fait quelques-unes, là, mais il va y avoir Aretha Franklin, mais on est déjà du côté de la soul. Sinon, on a eu Sister Rosetta Tharpe, on a eu Big Mama Thornton, Etta James, qui mériterait d'ailleurs un autre épisode, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, pour l'instant, j'ai une vue à très court terme.
Ouais.
Je sais où je vais pour cette saison jusque fin juin. Je sais pas où je vais pour la saison 3, c'est-à-dire pour l'instant je suis en train d'y réfléchir, de la préparer, d'accumuler des choses, d'ordonner. Voilà, pour l'instant ça va pas plus loin.
Et mais dans tes rêves les plus fous, où est-ce que t'aimerais amener ça? Est-ce que t'aimerais avoir des millions d'auditeurs, avoir plus de moyens pour bosser, faire des interviews, tout ça? Ou est-ce que c'est de toute façon quelque chose que tu veux garder en mode artisanal au sens noble du terme? Et pour moi, dans ma bouche, c'est un mot très beau, quoi. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais potentiellement professionnaliser, ou voir qu'un dernier disque avant la fin du monde, ça soit une carte de visite qui te permette de faire autre chose? Ou tu sais pas, ou quoi?
C'est très difficile pour moi de répondre. Si on parle dans mes rêves les plus fous, j'ai plein de choses à te dire.
Ouais.
Mais enfin, en gros, moi, à la base, ce n'est pas mon métier, ça.
Ouais.
Je suis commercial, directeur commercial dans l'informatique, dans le marketing digital. Et là, ça va bientôt faire un an et demi que je suis au chômage. Donc, j'avais mon projet de disquaire qui a avorté. Aujourd'hui, je suis sur une recherche de travail beaucoup plus traditionnelle. Je balance des CV à droite à gauche. J'ai des entretiens de temps en temps. Étant donné que j'ai plus de 50 balais, parfois, je suis sélectionné sur CV. J'arrive, je fais 1, 2, 3, 4, 5 entretiens. Et puis, je suis pas retenu. Je ne dis pas que c'est forcément à cause de mon âge, mais enfin, ça joue aussi parce que à cet âge-là, tu demandes un certain salaire, tu n'es plus prêt à avaler certaines couleuvres, etc., etc. Mais en attendant, j'ai vraiment besoin d'un boulot pour nourrir ma famille. Il est clair que dans mes rêves les plus fous, si je ne pense pas réussir à vivre du Patreon, mais s'il y avait, une radio ou un média quelconque qui me disait « Ouais, ce que tu fais, ça nous intéresse. » Est-ce que tu pourrais en faire des formats et que ça pouvait me permettre d'avoir un salaire régulier, clairement,
c'est possible.
Clairement, c'est quelque chose que j'envisagerais très sérieusement. Mais après, je suis assez bien placé aussi parce que j'en ai fréquenté et j'ai été pigiste pour Rolling Stone.fr. Non, pas pour Rolling Stone, l'édition française de Rolling Stone. Donc, je suis bien placé pour savoir que ça ne paye pas bien du tout et que même quand tu as fait ton boulot, il faut aller chercher ton sou avec un fusil si tu veux être payé. Ouais. Pour l'anecdote, je n'ai jamais été payé par Rolling Stone. Donc voilà.
On les salue au passage d'ailleurs. D'accord. Alors, tu peux passer ton RIB en direct. Bon, bah en tout cas, moi, ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir. Déjà, ça m'a donné l'occasion d'aller sur ton site web où je n'étais pas allé, donc c'est très bien. Moi, qui est un vieux podcasteur, ça me fait hyper plaisir de voir qu'il y a un podcast bah voilà, qui est vivant, qui date de... Il y a combien de temps, d'ailleurs, un dernier disque avant la fin du monde ?
Alors, je suis en plein milieu de la deuxième saison.
D'accord,
en fait, ça a commencé en septembre l'année dernière.
D'accord. Donc, c'est tout récent, mais c'est bien de voir que tu n'as pas pot-fadé, parce que comme on discutait tout à l'heure avant qu'on allume les caméras, quand on démarre un podcast, on se dit « Ouais, super, génial, je vais faire un épisode par semaine, let's go !» Puis après, on se rend compte que c'est beaucoup de boulot, puis qu'on a du mal à tenir le rythme. Ouais, et donc là, ça fait beaucoup d'excellents contenus. Donc honnêtement, allez écouter un dernier disque avant la fin du monde, vous allez apprendre plein de choses, découvrir plein de choses au niveau de la musique, c'est top. J'ai pu découvrir, alors je ne sais pas si on le voit sur ton site web, mais la mascotte, hein, c'est donc ce très beau bulldog machin.
Le Sergeant Pepper, ouais, un bulldog
Sergeant
français.
Sergeant Pepper, voilà. Et alors j'ai remarqué, mais je ne pense pas qu'on le voit sur le dernier, en tout cas si on ne le voit pas sur le site web, on voit que Sergeant Pepper, il a une guitare à la main.
J'ai changé le logo.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aura encore plus de guitares dans un dernier disque avant la fin du monde ? Je croise les doigts.
C'est possible. De toute façon, puisqu'on est dans le teasing, fin juin, le dernier épisode sera en deux parties et parlera de Jimi Hendrix Experience.
Et
il parlera autant de, on va dire... la carrière éclair de Jimi Hendrix que de la chanson « Hey Joe », autour de laquelle il y a un nombre d'histoires incroyables. Donc voilà, donc on parlera forcément de guitare.
Excellent.
Au passage.
Super. Ça me rappelle, alors attends, tu vas me rafraîchir la mémoire, mais tu avais fait tout un épisode sur « Killing Me Softly ».
Killing Me Softly, oui.
Voilà, où l'histoire, enfin, la chanson, allez écouter l'épisode parce que...
L'histoire de la chanson est vraiment incroyable.
Ouais, et là, c'est un angle qui est hyper intéressant parce que du coup, tu navigues au travers de plein de choses et puis tu apprends tout plein de choses sur cette magnifique chanson qui n'a pas l'origine qu'on pourrait penser.
Non, tout à fait.
Ça, c'est du beau teasing aussi. Hein. Puis ça, du teasing qu'on peut aller déjà écouter. Hein,
là, ça, c'est disponible.
Voilà.
Et donc, puis pour finir, j'ai failli le dire tout à l'heure, mais je ne voulais pas trop donner l'impression que je faisais ma pub. Sur Patreon, pour 5 euros par mois, on a tous les épisodes avec une semaine d'avance et on a un épisode bonus chaque mois.
D'accord.
Et donc, parfois, c'est un épisode...
Il y a quoi dedans ?
Alors, j'en ai fait deux sur John Mellencamp.
Ouais.
Je voulais m'attaquer à sa carrière complète. Au bout de deux épisodes, je suis qu'à la moitié de sa carrière.
Le mec
a fait 40 albums.
Ah, ouais.
Moi, je suis déjà épuisé.
Ouais.
Donc, y aura sûrement les deux suivants parce que faut aller au bout des trucs, mais faut les écrire, etc.
Mais que ça, on n'a même pas dans le feed normal, John Mellencamp, et qu'il y aura jamais.
Non, a priori, non.
Et pourquoi ?
C'est pour les Patreonneurs.
D'accord. Okay.
C'est-à-dire que je pourrais très bien nourrir la saison, mettre un épisode bonus de temps en temps. Mais le problème que j'ai, c'est que je me dis qu'un Patreonneur, si je lui demande 5 euros par mois, et qu'il voit que les épisodes bonus, ils sont déjà tous disponibles gratuitement, il ne va peut-être pas avoir envie de venir.
C'est pas faux.
Donc, c'est intéressant d'avoir un backlog.
Tout à fait.
Donc, il y a trois épisodes sur l'aventure American Recording de Johnny Cash, donc la collaboration de Johnny Cash avec Rick Rubin.
Ah oui.
Et il y en aura un quatrième, et ça sera clos. Il y a un épisode sur le premier album de Tom Waits. J'ai déjà écrit le deuxième album de Tom Waits et il y en aura probablement deux ou trois autres. Il y a un épisode sur Freddie King. Il y a
plein de choses en tout cas.
Il y a en préparation un épisode sur Creedence Clearwater Revival. Pareil, là, il y a des histoires de famille je vous hais qui sont vraiment pas mal. Il y a plein de contenus autres dans le Patreon. Donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup.
Quoi. Alors là, si on se rue pas tous sur le Patreon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Dernière chose, mais parce que je ne me rappelle plus, parce que je sais que tu l'as dit dans l'interview de Julien, mais je ne me rappelle plus. Captain Diligaf, ça veut dire quoi?
Alors normalement, Diligaf, ça s'écrit avec deux L.
Ouais.
C'est un acronyme qu'on trouve sur les forums. Ça veut dire « Do I look like I give a fuck ?»
Ah voilà, je me rappelais qu'il y avait un truc comme ça, mais j'arrive... Ouais, okay. « Do I look like... »
Est-ce d'accord. que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre ?
D'accord, voilà. Très bien. Donc la réponse est oui, il adore en fait. Eh bien, Captain, merci beaucoup d'être venu ici au showroom et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci alors, de m'avoir reçu.
C'était un plaisir.
Ciao.
Allez, ciao, bye bye.
Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaineguitare.com.